France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une étonnante famille de musiciens. Dinam Victor Fumé, élève de César Franck, Raphaël Fumé, son fils compositeur, et enfin Gabriel Fumé, un des grands flûtistes de sa génération, qui est avec moi pour vous raconter l'histoire de cette lignée où le talent se mêle à l'esprit le plus bohème. Gabriel Fumé sera à mes côtés dans quelques minutes. En fin d'émission, Serge Laïc nous parlera d'Henri Mancini, le compositeur de La Panthère Rose. Mais pour commencer, sur un rythme à trois temps, il se passe de drôles de choses sur les boulevards parisiens.
Boulevard, j'allais traverser et d'un passant chevaux du vin à passer. Avec un sourire, tu me dis il y a de la place, ça vous plairait-il que je vous en menace? Bref, je suis montée sans savoir pourquoi tu m'as emmenée jusqu'au fond du bois. Tu m'as pris la main sans que je prenne la mouche, tu m'as pris les cheveux. Tu m'as pris la bouche, et dans ces conditions, dame, c'était fatal. Il y avait bien des chances pour que ça tourne mal. Romance, tu m'as possédé pas. Voyez-vous, j'ai une jolie voix quand même. Surprise, et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Certes, j'aurais dû dire non, 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 non. Et voilà, j'ai dit oui, 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 oui. Seulement j'ai peur à présent que tu méprises. Et pourtant tu le sais, je l'ai pas fait exprès, ce qui est fait est fait. N'en parlons jamais. Très femme du monde, tu m'as possédée par surprise. Mais ça devient triste parce qu'on s'est séparés et on s'est fait serment de ne plus recommencer l'erreur d'un moment. On s'est dit adieu sous le clair de lune, adieu pour toujours et sans rancune. Tu l'as dit? Mais comme j'avais soif, on a bu deux verres, cinq, six, sept ensuite, et puis le dernier d'air, comme l'avant-dernier, m'a donné le vertige. Au bout d'un moment, je t'ai demandé, mais où suis-je? Tu ne répondis rien, moi non plus, pardi. Mais j'ai tout compris, j'étais dans ton lit. Alors lâchement, tu m'as repossédé pas. Surprise, et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Mais certes, j'aurais dû dire non, mais non, mais non, mais non. Mais voilà, j'ai dit oui, et oui, et oui, et oui. Seulement j'ai peur à présent que tu méprises. Et pourtant, tu le sais, je l'ai pas fait exprès, ce qui est fait est fait. N'en parlons jamais. Tu m'as possédé par surprise.
Gaby Mombreuse, une des grandes fantaisistes de la chanson française d'avant-guerre dans ce succès. Tu m'as possédé par surprise. Et tiens, une bonne nouvelle quand même cette semaine pour l'opérette que je voudrais annoncer à tous les amateurs avant de retrouver mon invité. C'est que à Paris, on va pouvoir découvrir en version française le Mikado, le chef-d'œuvre de Gilbert et Sullivan, les deux maîtres de l'opérette anglaise. Une version française arrangée par Gilbert Lemasson. Gilbert et Sullivan à l'Auditorium Saint-Germain à Paris le 1er et le 2 avril. Voilà vraiment, je crois, pour ceux qui aiment l'opérette, un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera à 20h le 1er avril, à 17h le 2 avril, sous la direction de Laurent Zaïc et dans une mise en scène de Renaud Boutin.
Must have its fling so pardon us, and don't in love. Must have its fling so pardon us, and don't in love. Must have its fling so pardon us, and don't in love. Must have its fling so pardon us, and don't in love. to recollect you cannot show too much respect toward the highly titled few, but nobody does, so why should you? That you that us should have its fling is hard on us, is hard on us. To our prerogative we cling, so pardon us if we be kind to dance and sing.
But your love force must have its fling and pardon, and good in
un extrait de cette merveilleuse musique du Mikado. Alors ici, c'est la version originale anglaise par le chœur, l'orchestre du Pays de Galles et les chanteurs sous la direction de Charles Maqueras. Mais voilà une œuvre qui a beau être la plus célèbre de Gilbert et Sullivan, qu'on connaît très mal en France et que je vous invite, je vous le redis, à découvrir à l'Auditorium Saint-Germain les 1er et 2 avril prochains. Et puis juste encore un mot avant de retrouver Gabriel Fumé, un mot un peu triste parce que c'est la disparition d'un grand chef d'orchestre le 20 mars dernier. Il avait 95 ans, c'était l'un des derniers grands chefs de la génération des Pierre Dervaux, Jean Fournet, Georges Prêtre, Jean Martinon. Je veux parler de Louis Frémaux, ce chef d'orchestre qui, comme ceux que je viens de citer, a fait perdurer une certaine tradition de la musique symphonique française. Il avait étudié à Valence. Ancienne, il avait fait la guerre et puis il avait surtout été l'un des fondateurs de ce qui allait devenir l'Orchestre National de Lyon. Il avait également dirigé l'Orchestre Symphonique de la cité de Birmingham avant l'arrivée de Simon Rattle, puis l'Orchestre Symphonique de Sydney. Il a enregistré pas mal de musique et notamment à ses débuts, un merveilleux enregistrement du Bal Masqué, ce chef-d'œuvre de Francis Poulenc, avec notamment Francis Poulenc lui-même au piano, Pierre Bernac qui chante et quelques autres, donc sous la direction du tout jeune, pardon, Louis Frémaux.
Quand un paysan de Chine chino, 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 veut avoir des primeurs. Il va chez la primeur ou bien chez sa voisine. Chine, 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 chine. Tous les paysans de la Chine les avaient étudiés. Pour leur mettre des bottines tines, il leur faut l'exer. Monsieur le comte d'Artois est monté sur le toit faire un conte d'ardoise. Toi, 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 et voir par la lunette nette, nette, pour voir si la lune est plus grosse que le doigt. À vapeur et sa cargaison, son, 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 ont échoué contre la maison, ont échoué contre la maison. À vapeur et sa cargaison, ont échoué contre la maison. Chipons de la graisse, droit, 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 pour en faire des canons, pour en faire des canons. Chipons de la graisse, droit, pour en faire des canons.
Le merveilleux bal masqué de Francis Poulenc avec les solistes de l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris et Pierre Bernac, baryton entre autres, sous la direction donc de Louis Frémaux qui nous a quittés le 20 mars dernier à l'âge de 95 ans.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité pour évoquer avec lui deux grands compositeurs méconnus du XXe siècle, de ces musiciens qui avaient une passion de la musique allant de pair avec un manque d'intérêt total pour la carrière. Et c'est peut-être pourquoi on les a un peu oubliés. Dinam Victor Fumé, élève de César Franck, et son fils Raphaël Fumé. Pour nous en parler, eh bien c'est le petit-fils, le grand flûtiste Gabriel Fumé, qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Gabriel Fumé.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Mais écoutez, c'est une joie pour moi et c'est une double joie de commencer avec cette ravissante petite gavotte de Handel avec Jean Galard à l'orgue et vous-même à la flûte. Je regardais votre répertoire, on préparait ensemble l'émission et vous avez tout joué, mais j'ai l'impression que vous avez quand même un goût particulier pour cette musique du XVIIIe siècle, Bach, Handel,
souvent
Vivaldi.
Parce que j'ai fait beaucoup de concerts dans les églises parce que ça se fait là et c'est plus facile de jouer des œuvres qui correspondent un peu à l'architecture, si vous voulez.
Bien sûr. Donc vous aimez le duo flûte-orgue aussi qui
oui,
évidemment
oui, parce que c'est trouvé comme ça, parce qu'il y a des organistes à qui je faisais jouer des œuvres, mon père et mon grand-père. C'est pour ça. Donc comme Jean Galard, d'ailleurs, qui a fait un très beau disque. Et puis Jean-Paul Imbert aussi, qui a fait sur un orgue de Saint-Eustache un très beau disque. Et puis Frédéric Denis. Il y en a pas mal. Et puis il y a Henri-Franck Beauperrin qui est un formidable organiste aussi.
Voilà, mais il vous arrive aussi de jouer avec clavecin,
avec
de jouer
piano,
avec orchestre,
bien sûr,
avec de jouer
piano.
Avec piano.
Avec piano.
Et alors, vous avez d'ailleurs un point commun, je parlais des musiciens du XVIIIe siècle avec Jean-Sébastien Bach, parce que c'est que vous faites partie d'une dynastie de musiciens
oui.
extraordinaire.
Mais je sais.
Mais méconnu.
Mais méconnu, et c'est très fatigant.
Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour essayer de faire ensemble le portrait de cette étonnante famille fumée, voilà. Grande famille musicale du XXe siècle.
Exactement.
À laquelle vous avez consacré, il faut dire, beaucoup de votre vie et de votre
c'est
énergie.
Pour ça, j'ai fait de la flûte pour ça. Bon, en me disant, un jour, j'aurais trouvé le moyen de... Je ne suis toujours pas arrivé, d'ailleurs.
De faire connaître votre père.
Ça vient, ça
Raphaël
vient.
Raphaël Fumé.
Mais c'est très lent.
Et votre grand-père,
un peu mieux connu.
Dinam Victor Fumé.
Voilà.
On a l'impression qu'il y a une espèce de poisse, quand même, qui a poursuivi ces grands artistes vis-à-vis de la notoriété.
Oui, c'est un peu de leur faute aussi, parce qu'on ne peut pas dire que mon grand-père a fait grand-chose.
Pour se faire connaître.
Non, puis il ne supportait pas.
La moindre concession.
Il supportait rien. Je crois que Pierre-Ney le jouait, tout ça. Et alors, il était exaspéré.
Gabriel Pierre-Ney, ouais. Oui.
Si mon grand-père était au premier rang, il ne supportait pas d'écouter la musique des autres.
Ah oui.
Il était un peu... Ah, oh, ce que c'est emmerdant, il ne supportait pas. Alors, évident, cela dit, il était charmant, très délicat comme homme, ce n'était pas du tout... Mais sur le plan des idées, du style, il était assez rigoureux.
Et votre père a hérité de ce côté, on ne fait rien pour réussir, quoi.
Ah non, surtout pas.
Mais ils ont laissé tous les deux une œuvre importante dont on va parler, et qui a été quand même saluée par quelques témoins enthousiastes, je pense à Bernard Gavotti notamment.
Ah bah Bernard Gavotti, c'était formidable, il m'a fait un article. J'avais joué pour la première fois une ode pour flûte et orchestre au Festival de Corse.
Une ode composée par...
Par mon père.
Par votre père,
que
Raphaël.
Que je lui avais arraché note par note, d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas, parce que ça ne l'amusait pas de faire un concerto. Et je l'ai joué, et ça s'est très bien passé. Il y avait un jeune chef qui s'appelait Paul Capoulongo. Ça s'est bien passé, sauf que j'ai eu une très bonne critique dans le Figaro. Mais on a parlé que de moi, pas un mot sur l'œuvre. Alors j'étais un peu furieux, donc j'ai écrit... aux responsables, ils habitaient une grande propriété, et il y avait tous les critiques qui étaient là. Et la personne en question me dit « Vous êtes beaucoup trop généreux, vous avez un grand talent, mais votre père n'est pas compositeur. »
Voilà.
C'était l'écrasement total.
Et c'est là que furieux, vous êtes allé voir Gavotti.
J'ai mis longtemps, parce que j'ai entendu dire qu'il disait beaucoup bien de mon grand-père. Je vais même y aller, au moins 2 ans après. Et je vais voir Gavotti, avec l'ode que j'avais enregistrée. Et l'autre, il était enthousiaste. Et là-dessus, il a fait un article...
Très élogieux sur votre père, votre grand-père et vous-même.
C'est comme ça.
Alors voilà, ces personnages étonnants qu'on va évoquer tout de suite ensemble. Dinam Victor Fumé, votre grand-père. Raphaël Fumé, votre père. Et on va commencer par remonter le temps donc et se plonger un peu dans le Paris. On va expliquer tout de suite pourquoi, dans le Paris du temps du Chat Noir.
Le Chat Noir, chanté par Aristide Brulon. La lune était sereine, quand sur le boulevard, je vis poindre ce cèdre qui me dit cher Oscar, d'où viens-tu vieille branche? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est de maladie. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais mademoiselle Claire, à qui je murmurais, comment vas-tu la belle? Très bien, et vous merci. À propos, me dit-elle, que cherchez-vous ici? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Quand on me transporta dans une préfecture où l'on me demanda, êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste, quel est votre métier? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune,
Aristide Bruand dans les premières années du XXe siècle. Alors il faut dire donc, Gabriel Fumet, que votre grand-père, Victor Dinam Fumet, a beaucoup fréquenté dans sa jeunesse ce milieu de la bohème montmartroise.
Oui, hein. Il était au Chat Noir, il était chef d'orchestre au Chat Noir.
Il a été chef d'orchestre au Chat Noir, il a connu Eric Satie.
Oui, il lui a donné sa place d'ailleurs.
Il lui a donné sa place, donc on voit déjà que c'est donc un personnage de la bohème, on peut dire par un certain
tout
côté.
Tout à fait, hein. Oui, il était anarchiste,
Il avait grandi à Toulouse, fils d'un horloger.
Très, très autoritaire. Et qui était un homme charmant, mais enfin, qui était un homme merdeur. Et quand il arrivait à 16 ans au conservatoire, c'était la liberté totale. Et
il a été l'élève de César Franck, il
oui,
faut
bien
dire.
Sûr, hein. César Franck.
C'est même un des derniers élèves, sans doute, de César Franck.
Et de Guiraud, pour la composition. Oui. Bah, il a travaillé beaucoup. Et puis, très rapidement, il s'est lié avec des milieux anarchistes, parce que comme il plaisait beaucoup, parce qu'il jouait admirablement du piano, et donc il improvisait tout ça. Alors, petit à petit, ça s'est su, et évidemment ça fait mauvais effet au conservatoire, à l'époque c'était terrible.
Ah oui, cloisonné tout ça.
Et alors évidemment ça n'a pas arrangé sa destinée si on peut dire, c'est officiel.
Voilà, et finalement il est parti du conservatoire.
Il a passé le prix de Rome, il ne l'a pas eu parce que dans un journal, le jour de son examen, ou de sa mise en loge, il y a un article sur ses activités anarchistes. Alors, évidemment, ça n'allait pas du tout au conservatoire.
Du coup, il est parti effectivement au Chat Noir, et puis il est devenu un musicien indépendant, un peu ésotérique.
Et surtout ésotérique, parce qu'il s'était intéressé qu'à ça, finalement.
Oui, c'était sa vraie passion.
Et alors, non, parce qu'il avait perdu sa mère à 11 ans, ouais. Et il s'en était jamais remis, finalement. Et pour lui, la mort était quelque chose d'insupportable. Et donc, il avait une espèce d'obsession de l'au-delà.
Voilà.
Il était très très ami avec Verlaine. Il tutoyait Verlaine.
Votre grand-père tutoyait Verlaine. Moi, ça me fascine, ces sauts dans le temps. Il a bien connu aussi Léon Blois.
Ah bah bien sûr, il avait une passion pour Léon Blois, parce que c'était une catastrophe. Il fallait parce que Léon Blois c'est un personnage étonnant, mais en même temps un peu complètement
illuminé. Enfin.
Plus que ça. Enfin, c'était un personnage extraordinaire. D'ailleurs, mon oncle Stanislas a écrit un livre qui est très beau, qui s'appelle « Mission de Léon Blois », justement, où il y avait une grande admiration pour Blois.
Donc, votre grand-père a un certain temps fréquenté ces milieux, et puis finalement, il ne s'est pas vraiment rangé ni consacré à son œuvre de compositeur, mais il s'est marié et il est resté un peu dans l'ombre de la vie musicale. Même s'il est parti en Amérique du Sud, où il a connu un certain succès.
Il y a eu un énorme succès, d'ailleurs. Mais il a gagné de l'argent, et il s'est acheté un cheval, et puis il est parti rêver comme ça. Puis il est revenu en France, il convertit, il avait fait une espèce de
virage mystique.
Un virage métaphysique. Hein. Et puis alors après, il s'est donc marié avec ma grand-mère, qui était une femme très ravissante, il paraît. Ils sont allés dans un voyage de noces dans une petite ville à l'Escar, où il y avait un bel orgue et une belle église. Ils sont restés un an, parce que mon grand-père trouvait ça très bien.
Enfin, il se foutait. Il n'y avait vraiment pas de plan de carrière.
Ah non, absolument pas.
Alors, on va peut-être écouter une première œuvre de Dinam Victor Fumet, une œuvre qui date du tout début du XXe siècle, de 1904, qui s'appelle le Sabbat rustique.
Ah, très bien, oui.
Qui est une grande œuvre d'orchestre, étonnante. Hein. Oui, oui. Peut-être dire un mot de l'œuvre,
C'est
qu'elle représente.
Elle a été jouée, mais il y avait des fautes. Mon grand-père corrigeait mal ses partitions, ça énervait le chef. Il a dit, écoutez, vous reviendrez quand vous aurez rétabli. Du coup, mon grand-père l'a laissé tomber.
Il est passé à autre chose.
Ah ouais. Et puis, moi, j'avais cette œuvre parce que j'entendais mon père la jouer, c'est pour ça. J'ai réussi à la faire jouer par jeune chef russe. Voilà. Formidable. Parce que les Russes, ils ont gardé, une fraîcheur, une attention aux choses. Ils ont eu 75 ans de matérialisme dialectique. Et ben c'est, au contraire.
Mais du coup, ils ont entretenu leur goût musical.
Leur spiritualité.
Et, ouais. Ils aiment la musique de votre grand-père, contrairement aux Français qui l'ignorent.
Ah non, justement, mais c'est un chef formidable. Et l'orchestre, c'est un orchestre de jeunes, ils ont 20 ans, mais faut voir un peu. Quand j'ai fait jouer ça, par exemple, la symphonie de mon père, dans un orchestre reconnu, tous les corps canardaient parce que c'était trop grave. Je sais pas. Alors que là, il y avait des jeunes de 18 ans, paf, ça sortait. Enfin, peu importe. Et quand je suis arrivé, dans ce concert, il y avait une œuvre de mon grand-père et une œuvre de mon père. Et le chef m'a dit, qui s'appelait Golikov, m'a dit, écoutez Gabriel, tous les musiciens sont amoureux de l'œuvre de votre père, de votre grand-père. C'est extraordinaire. Quand vous dites ça, ça fait du bien. Ah alors, oui. Alors qu'en France, il y a des colibets et des ricanements.
Eh bien, écoutez, on va tout de suite la mettre à l'honneur, cette musique de votre grand-père, en écoutant la première partie de l'Allegro de ce Sabbat rustique, voilà, dirigé par Mikhaïl Golikov.
Je lis sur la partition en exergue cette formule. L'âme qui aime le beau mange le ciel. C'était déjà tout le mysticisme de l'auteur, cause de son isolement, qui lui sera par la suite si préjudiciable, car il va s'enterrer dans un collège de province à partir de 1897 et ne reparaîtra dans le monde musical que peu d'années avant la guerre de 1914. Les grands concerts ne joueront en premières auditions sans lendemain ce novateur de 1886 qu'après Debussy, Roussel, Ravel et même Stravinsky. Or, comme sa musique, si elle n'a cessé de s'enrichir, l'a toujours fait dans la même direction et n'a donc en réalité point changé, les critiques surpris en sont encore à se demander où le classer. On a, je pense, noté ce caractère de dépouillement lié à une si grande richesse d'inspiration. Les harmonies de Dinam Victor Fumé ne tirent point leur originalité de leur hardiesse d'écriture, mais toujours de leur pureté d'écriture. Je demande à mon frère Raphaël, compositeur lui-même, comment il explique cela ?
Eh bien, l'harmonie chez mon père est la résultante d'un concours de mélodies. Voilà pourquoi sa musique est essentiellement une musique qui chante. Il ne fait pas, comme tant d'autres, des successions de neuvièmes, Dieu merci. L'accord de neuvième n'est jamais pris pour lui au titre de matière sonore. Il ne prend pas l'accord comme point de départ. Chaque accord est aboutissant, ou plutôt aboutissement, un sommet à la fin d'un souffle mélodique.
Voilà, Gabriel Fumet, ça c'était, on vient de les entendre, votre père en dernier et juste auparavant son frère. Donc Stanislas Fumet et Raphaël Fumet, les deux fils de Dinam Victor Fumet qui parlaient donc de la musique si belle qu'on vient d'entendre, de leur père, là en l'occurrence, donc on vient d'entendre le sabbat rustique par l'orchestre du Palais de Tauride de Saint-Pétersbourg sous la direction de Mikhail Golikov. Mais c'était intéressant aussi d'entendre les voix de ces deux personnes. On va d'ailleurs tout de suite dire un mot de Stanislas Fumet. Votre oncle, donc, oui. Qui lui-même a été un intellectuel très très connu dans la France d'avant et d'après la guerre.
Il a commencé très jeune, puisqu'il a, je crois qu'il a fondé une revue à 14 ans. C'était un personnage comme ça. Il a connu tous les grands artistes de son temps, alors qu'ils n'étaient pas connus.
Oui.
Comme mon père.
Oui, ils ont fréquenté Modigliani, les gens de Montparnasse.
Tout le monde, tous les gens qui semblaient. Ils l'ont fait par instinct porteur, parce qu'ils avaient la même originalité, si vous voulez.
Donc Stanislas Fumet, votre oncle, auteur de nombreux livres.
Il a connu Picasso, il a connu tous ces peintres, il connaissait beaucoup d'eux. Et en plus, il avait par exemple un peintre qui s'appelait Lenoir, Marcel Lenoir, et qu'il estimait beaucoup. Et donc personne ne parlait, mais lui en a toujours parlé beaucoup.
Il a fait aussi quantité d'émissions à la radio d'ailleurs,
énormément.
Au lendemain de la guerre.
Bien sûr, il en a fait beaucoup. Il faisait notamment l'analyse spectrale de l'Occident.
L'analyse spectrale de l'Occident. Et aussi, il faut dire, d'ailleurs, Stanislas Fumet, par ailleurs, était, on peut dire, un des inspirateurs de ce qu'on appelle le catholicisme social.
Oui, il n'aimait pas le catholicisme bourgeois.
La famille n'était pas très bourgeoise dans son style de vie, de toute façon. Et puis donc, votre père, on va en reparler dans un instant. Je reviens donc à votre grand-père, à leur père, donc Dinam Victor Fumet. Comment s'est déroulé, après son retour à Paris, toute la fin de sa vie? Il est mort âgé, en 1949.
Oui.
Vous l'avez rencontré qu'une seule fois?
J'ai vu qu'une fois. J'étais complètement mélusé. Je veux dire.
Vous lui avez demandé?
Quel âge avez-vous? Il m'a dit, j'ai 100 ans.
J'ai 100 ans. Ce grand-père étonnant avec une énorme barbe, un très beau visage qu'on voit sur certaines photos. Et oui, je veux dire, il était amer de son relatif échec vis-à-vis de la notoriété?
Je crois qu'il était habité par d'autres...
D'autres préoccupations.
D'autres préoccupations. Il s'intéressait qu'à la métaphysique, en fait. Puisque juste avant de mourir, il a dit « Enfin, je vais savoir ».
Ah oui, c'est pas vrai.
Toute sa vie.
Alors, est-ce qu'on peut essayer, avant d'écouter une autre pièce de Dinam Victor Fumet, est-ce qu'on peut essayer en quelques mots, je sais qu'on a la manie des classements en France, mais de définir, voire de classer son style musical?
Écoutez, c'est français. Ouais. Mais il y a une époque, surtout à partir de la guerre de 70, il y avait un anti-wagnerisme militant.
Ouais.
Et lui, on ne peut pas dire que mon oncle était enfermé par les Allemands pendant la guerre, on ne peut pas dire que c'est nazi, mais il aimait Wagner. Donc,
il était wagnérien, votre grand-père. Hein.
Il était wagnérien, mais il aimait Wagner, simplement.
Ouais.
Il avait le droit d'aimer Wagner. Or, à l'époque, il ne fallait pas aimer Wagner. Et une fois, il y a une histoire qui lui a fait un tort considérable, d'ailleurs. À propos de Darius Milhaud, qui avait écrit un jour dans un grand journal, je crois, en gros titre, « Abba Wagner », je ne sais pas quoi.
Oui, c'est l'époque de l'anti-wagnérisme après la Première Guerre mondiale.
Ouais, alors justement, ça avait énervé mon grand-père, qui a tout de suite fait un démenti en disant que quand les gens en passent, les nains doivent se taire, ou quelque chose comme ça.
L'autre... Évidemment, il était un peu décalé par rapport à cet esprit des années folles.
Ouais, alors l'autre fut furieux, lui a dit il ferait mieux de faire du contrepoint tous les jours. Alors mon grand-père l'a provoqué en duel de contrepoint rigoureux, évidemment.
Duel de contrepoint rigoureux, c'est pas mal.
Alors finalement, il n'a jamais répondu, évidemment.
Alors on va écouter une deuxième pièce de Dinam Victor Fumet, extraite d'un disque que vous avez récemment, parrainé, d'un jeune et brillant pianiste.
Avec un pianiste extraordinaire qui s'appelle Yenisei Aramik.
Voilà.
Alors je dis deux mots, parce que c'est pas choisi par hasard. Il m'avait été recommandé par un ami qui s'appelle Patrick Belargent. Et voulant essayer quelque chose, je lui ai donné une partition d'une improvisation qui avait été retranscrite, justement. Il est revenu 15 jours après, il me l'a joué par cœur d'une façon époustouflante. Alors je lui ai dit, tant mieux, je vais le prendre pour faire ce disque. Et il a formidablement bien travaillé. À chaque fois qu'il y avait une chose difficile, il frétillait. Alors que d'autres se tirent les cheveux.
Mais enfin... Un très joli disque avec les œuvres pour piano de Dinam Victor Fumé et de Raphaël Fumé. Donc on va écouter tout de suite de Dinam Victor, votre grand-père, Le Caprice, qui est une œuvre de la toute fin de sa vie.
Toute la fin de sa vie, il avait 80 ans quand il avait ça. Vous allez voir, à 80 ans, il avait encore de... il avait de la verve.
Le Caprice de Dinam Victor Fumé, joué par Inessi Ramic au piano, dans un disque récemment paru, donc Gabriel Fumé, avec cette écriture très dense. Ça me fait un peu penser par certains côtés à son contemporain Florent Schmitt, qui aimait bien aussi la musique très riche comme ça. Et effectivement, en tout cas, voilà une occasion avec ce disque de redécouvrir ou de découvrir la musique de Dinam Victor Fumé. C'est René Duménil, le grand critique musical, qui écrivait cette même année d'ailleurs, où a été composé Le Caprice. Il écrivait un musicien de race qui, dans le silence, a composé une œuvre considérable, un indépendant et un solitaire auquel l'avenir sera, il faut espérer, plus équitable que ses contemporains. C'est donc la cause à laquelle vous vous vouez voilà, depuis fort longtemps, Gabriel ouais. Fumé. Faire connaître cette œuvre de votre grand-père et de votre père, dont on va parler un peu plus maintenant aussi, Raphaël Fumé, dont on a entendu la voix tout à l'heure. Vous dites dans le livre que vous avez consacré à votre famille, la musique du silence, que c'était un Jean-Sébastien Bach déguisé en Charlie Chaplin.
C'était mon oncle qui disait ça.
La formule vient de votre oncle, pour parler de votre père.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton père? C'est Jean-Sébastien Bach réincarné en Charlie Chaplin.
C'est-à-dire qu'il était gaffeur.
Et il ne se prenait pas au sérieux. Il se prenait sa musique très au sérieux, mais le reste, l'entourage, il s'en fichait complètement.
Donc on peut dire qu'il avait un peu suivi le modèle de son père en ce sens-là.
Ah, tout à fait. Voilà.
Pour lequel il avait une grande admiration.
Total. Oui.
Voilà. Donc il a décidé très jeune de se consacrer à la musique.
Ah ben, tout jeune, c'était assez. C'est une histoire drôle parce qu'il ne parlait pas étant petit. Alors, mais ouais. Ses parents étaient terrifiés. On dit on a eu un enfant idiot, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, à un moment, un jour, ils ont été surpris à 4 ans. Il s'est mis à jouer du piano sans avoir jamais appris.
Ah oui.
Il avait observé son père. Ouais. Avec une acuité extraordinaire. Et alors, mon grand-père dit, nous sommes sauvés, il est organisé.
Voilà, il est organisé. Mais il n'était pas si organisé que ça. D'ailleurs, dans la famille, on n'allait pas beaucoup à l'école. Tout se passait plutôt à la maison.
Oui, non, parce que lui allait à l'école, mais ça n'allait pas. Parce qu'il se battait avec les autres. Enfin, il y avait toujours des problèmes. Alors, on a essayé après de prendre un précepteur. Ça n'allait pas non plus. Puis alors, mon grand-père dit, mais tant pis, laissons-le qu'il fasse de la musique.
Qu'il fasse de la musique.
C'était de la folie. Par contre, il était tout de même très cultivé. Parce que ma tante me disait, à 12 ans, il avait lu tous les Russes, déjà.
Oui, c'est ça.
Il avait lu Dostoïevski. Il ne faisait que ce qui l'intéressait. Quoi.
Alors, votre père, jeune musicien, a commencé par être un musicien de cinéma extraordinaire.
Le cinéma, à 15 ans, il improvisait admirablement. Et on lui donnait le film. Et en regardant le film, il faisait la musique.
Voilà.
Alors, il avait beaucoup de succès. D'ailleurs, il jouait ça aux 1000 colonnes à Montparnasse. Il y avait Modigliani qui venait, il y avait même Picasso, il avait beaucoup de gens.
Il a très bien connu d'ailleurs la plus célèbre compagne de Modigliani.
Mon père était éperdument amoureux,
c'est ça.
Jeannette Butin qui était partie d'une beauté renversante pour lui.
Il s'est suicidé après la mort de Modigliani.
Et c'était un coup terrible pour lui.
Voilà, donc ça c'était son milieu. Jeune musicien, voilà, doué, jouant dans les cinémas, fréquentant l'avant-garde, etc. Voilà. Gagnant sa vie parce qu'il y avait beaucoup de travail pour les musiciens.
C'était très facile à l'époque, surtout il était très demandé parce que c'était un peu une attraction, on le voyait comme ça, en regardant improviser.
Et puis finalement, fondant une famille...
Après il a fait son service militaire qui a été une catastrophe épouvantable parce qu'il était vraiment inadapté, c'était un enfer absolu. Et puis après il a voulu rentrer à la trappe, c'était extraordinaire.
Trappiste.
Oui, il a voulu être trappiste. Et puis, à un moment, on l'a surpris en train de jouer Siegfried Idyll au moine.
Siegfried Idyll au monastère où il voulait rentrer.
Alors,
oui.
Le supérieur lui a vivement déconseillé de continuer. Alors, il était organiste un peu, il a donné des cours. Et puis, il s'est marié, effectivement. Et à ce moment-là, il a voulu faire une œuvre musicale et il était voulu aller à la campagne pour écrire. Parce que, pareil, c'est pas possible. Enfin, et alors, il est resté donc 10 ans au collège de Juilly. Moi, je suis né à Juilly, d'ailleurs. Ouais. Et puis la guerre les a poussés, parce que c'était la débâcle, ouais. Ça les a poussés jusqu'à Angers. Alors ils ont d'ailleurs une maison à Béhoire. Béhoire, c'est une île sur la Loire, c'est très ravissant d'ailleurs. Et alors même ma mère n'a pas voulu rester, parce que ça joue que c'était deux fleuves. Elle dit, j'aurai un enfant noyé, je veux pas rester là.
Alors, ce qui est fascinant, c'est que la famille de votre enfance, donc votre père, votre mère et vos nombreux frères et sœurs, c'était vraiment une famille, là encore... Très très bohème, et je crois que le tout jeune Jean-Claude Brialy, qui était ami de votre frère, était fasciné par la liberté qu'il y avait dans votre famille, où il n'y avait quasiment aucune règle, quoi.
Oh, il y avait des règles, même, enfin, je veux dire, il y avait pas, c'est évident par rapport à lui, qui était fils d'officier, qui s'embêtait à mourir. Donc, il arrivait, on lisait des livres, on faisait de la musique, enfin, tout ça, c'était un milieu il aurait tellement voulu être dedans, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est extraordinaire. D'ailleurs, on en a parlé dans ses mémoires, d'ailleurs.
Alors, on va écouter une première pièce de Raphaël Fumé, donc votre père. Et j'ai choisi une œuvre pour trois flûtes, un trio pour flûte.
Oui, c'est ravissant.
On y reviendra d'ailleurs, il a beaucoup écrit pour la flûte, mais en partie parce que vous étiez, vous, flûtiste.
Oui, je lui demandais, oui.
Là, c'est cet allegro du trio pour flûte que j'ai trouvé très, très original et très réussi. Peut-être un mot sur cette pièce?
Oh, ben, ça a été fait dans les années 58, par là. Je joue ce trio avec Benoît Fromanger, qui était flûte solo de l'opéra. Et Philippe Pierlot, qui était flûte solo de l'Orchestre National, c'est pas mal, je suis bien entouré. Alors voilà, c'est un très joli trio.
Thank you.
Gabriel Fumé, Benoît Fromanger, Philippe Pierlot dans ce trio pour flûte de Raphaël Fumé. Je cite Jean-Pierre Rampal, parmi les œuvres de Raphaël Fumé composées pour la flûte, il n'y en a pas une que je ne trouve pas formidable.
Oui, oui, c'est ce qu'il m'avait
voilà,
dit.
Voilà, Gabriel Fumé, un bel éloge hein, de Rampal.
Un an avant de mourir, il m'avait téléphoné pour me dire ça.
Voilà. Et vous-même, donc, vous êtes un petit peu à l'origine du fait que votre père a beaucoup composé pour la flûte, puisque très jeune, vous avez choisi cet instrument. Hein.
J'ai choisi après avoir vu un film qui s'appelait Entre ciel et terre sur Israël, oui. Qui était magnifique d'ailleurs, et il y avait une musique absolument magnifique. Il y avait quatre flûtes et un violoncelle, évidemment il y avait un choral, c'était vraiment formidable. Et ça m'a donné évidemment envie de jouer. Puis il y avait un très bon professeur à Angers, qui était le directeur du conservatoire. Bon, finalement, il m'a pris sous son aile un peu, mais j'ai commencé tard. Hein. Parce que avant que mon père se décide à le faire, mon père il pensait à toute autre chose.
toujours dans la lune.
Ouais, exactement.
Il était par ailleurs à Angers, donc organiste de l'église Saint-Joseph.
Il avait un très beau cavalier-école d'ailleurs, et on a voulu le restaurer. Il fichait à la porte de restaurateur. Maintenant, on trouve que c'est le plus beau de France, parce qu'il personne l'a touché.
Ah oui.
Parce qu'à un moment, il fallait baroquiser les cavalier-école. Ouais. Le cavalier-école, c'est le Stradivarius de l'orgue romantique. C'est
oui, c'est le contraire du lambard.
Alors justement, alors maintenant, c'était la grande mode, il fallait... Ouais. Alors mon père, vous allez vous furieux quand c'était comme ça. Il défendait ces choses-là, il était très...
Enfin voilà, un personnage lunaire, grand improvisateur aussi. Hein.
Ah,
on y reviendra, on écoutera tout à l'heure une de ses improvisations. Ouais. Donc évidemment, vous n'avez pas été découragé, en tout cas, d'être devenir musicien. Au contraire, vous êtes monté tout jeune homme au conservatoire.
Et puis il nous accompagnait au piano, il était très... Puis ça l'amusait de jouer avec nous. Mais enfin... Il y avait beaucoup de difficultés parce que...
Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il donnait des leçons de piano finalement pour gagner sa vie.
Oui, oui, il donnait des leçons de piano.
Pour arrondir les fins de mois.
Quoi ? Il ne supportait pas beaucoup d'élèves. Voilà. Quand ça sonnait à la porte, une élève arrivait. Oh mon Dieu ! Ah, oui. Il pleurait quasiment.
Non, enfin, il a été encore moins reconnu que son père comme compositeur finalement de son vivant.
Ah ouais, tout à fait, non. Il n'avait pas été reconnu du tout. Et puis à l'époque, c'était déjà... Il y avait une certaine modernité académique, donc ça paraissait pas...
Il n'était pas dans le mouvement du moment.
Alors, non, il était persécuté, même. Il était,
alors, vous-même, il faut dire, Gabriel Fumé, vous êtes né un petit peu avant la guerre, et puis ensuite, vous avez appris la flûte, vous êtes monté à Paris au conservatoire, et vous êtes monté animé à la fois par la volonté, forcément, de devenir, j'imagine, un grand flûtiste, mais aussi de défendre l'œuvre de votre père et de votre grand-père.
C'est ça, hein. Parce que je voulais savoir comment connaître les méandres de la fabrication des célébrités, si on peut dire. Ouais. J'ai été d'ailleurs très édifié. En tout cas, j'ai toujours pas compris d'ailleurs.
Oui, mais enfin, vous avez été un jeune flûtiste très brillant, proche de la toute une génération musicale, très
active.
Oui,
bien sûr. Oui, non, mais je fais ce que j'ai pu. Mais enfin, je veux dire, c'est un métier difficile. De toute façon, tout le monde est en état d'urgence dans ce métier. Ouais. Alors, c'est très difficile même de faire reconnaître une œuvre parce que les gens sont opportunistes, il faut être dans le vent d'un moment, simplement pour survivre, tellement c'est difficile. Ouais. Alors, il ne faut pas croire qu'on a l'impression, quand on écoute les commentaires, que c'est un lit de rose.
Enfin, l'école française de flûte, quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez étudié, était encore, et elle est toujours à son sommet. Il y avait Marcel Moïse, il y avait votre professeur.
Oui, il y a Gaston Crunel.
Il y avait le jeune Rampal qui commençait.
J'ai connu Moïse, j'ai vu une fois Moïse, il avait... 90 ans, il était. Je raconte cette histoire parce que c'était même drôle. Il était à Saint-Amour, parce qu'il avait une maison là-bas, et j'avais un ami qui m'avait invité dans la région, puis j'ai réussi à avoir un coup de téléphone avec lui. Alors il m'a demandé de passer. Évidemment, je suis arrivé, il m'avait oublié, alors il n'était pas content parce qu'il était un peu vieux, il ne se rendait pas compte. Alors il m'a fait jouer toutes sortes de choses. Et il a dit, comment se fait-il, de tous les flûtistes que j'ai entendus, il en a entendu des centaines, parce qu'il est un grand professeur, vous êtes celui qui est le plus proche de ma conception.
Ah,
alors, il dit ça avec une certaine agressivité. Alors, je lui dis, bah, écoutez, je suis un élève de votre élève, Gaston Crunel. Gaston Crunel, c'est un businessman, c'est pas un musicien. c'est comme ça. Et puis, on a parlé. Puis, bon, ça s'est pas si bien passé que ça. Et c'est un personnage étonnant. Pendant la guerre, avec le nom qu'il avait, il a été obligé de s'expatrier. Il n'était pas juif, d'ailleurs.
Marcel Moïse, oui.
On était enfant trouvé, je crois. Et alors, c'était apparaît-il un fils de Puvis de Chavannes. C'est même très drôle, comme ça. Ouais. Il a appris la flûte, je ne sais pas quoi. Et pendant la guerre, il a été obligé de s'en aller. Il a eu un poste en Suisse, je crois. Et il a laissé sa classe à son ami et élève, Gaston Crunel.
Votre professeur.
Voilà. Quand il est revenu, évidemment, Gaston Crunel avait des élèves, il n'a pas voulu les lâcher. Alors ça fait des histoires. Alors finalement, on a fait une deuxième classe pour soliste. Mais ça fait toujours des salades. Et un moment exaspéré, il invite le tout Paris Flûte à un cocktail comme ça, chez lui. Et il dit ostensiblement, très fort, « Ah, voilà Gaston, tiens, j'ai fait un rêve étonnant cette nuit. J'ai rêvé que mon meilleur ami, mon meilleur élève, me rendait ma classe au conservatoire. » Alors on entend une voix caverneuse qui dit « Moi, je ne rêve pas. » Mais c'était un personnage. Il a été tout de même professeur de Rampal, professeur de Gaulois. Il jouait peu, mais quand il jouait, il prenait sa flûte, ça durait 2 minutes, il jouait toujours mieux que vous. Et parce qu'il avait tout de même des bons élèves, parce qu'au conservatoire, il y a de très bons élèves, il ne faut pas exagérer, la sélection est venue. Hein.
Alors vous aviez, vous, une bande d'amis, notamment Jean Mouillère. Hein,
Jean Quatorvianova, oui, avec
le violoniste, qui
était
proche.
Un très grand ami, parce qu'il m'avait beaucoup aidé, je dois le dire.
Et puis aussi des amitiés plus mondaine, on peut dire, avec plus tard François Michel, Nathalie de Noailles, la fille de Marie-Laure de Noailles, qui vous adorait.
Ben oui, je suis arrivé chez elle comme ça, à cause de François d'ailleurs. Et elle s'était un petit peu entichée de moi. Et elle m'a offert son salon. Et
à Fontainebleau.
Oui, avec un chéquier pour payer les musiciens, parce que. Ouais. ils étaient tous très enthousiastes de la musique que je faisais jouer. Au milieu des Picasso, des Rembrandt et tout ça, ça prenait une valeur tout de suite. Et puis ça durait ce que ça durait, comme toutes ces choses-là, ça dure le temps.
Donc finalement, vous avez eu à ce moment-là une réussite mondaine, si j'ose dire, mondaine. Que n'ont eu ni votre père, ni votre grand-père.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait un concert où j'ai fait jouer les études caractéristiques de piano par un pianiste qui s'appelle Laurence Alix et le quatuor avec Vianova. Et mon père est venu d'ailleurs. Mais c'était formidable mais c'était très difficile parce que Nathalie était harcelée par un tas de monde.
Alors on va vous retrouver tout de suite, Gabriel Fumé, dans une œuvre. Alors là, de votre répertoire de flûtiste. Hein. C'est d'ailleurs un enregistrement de France Culture parce que vous avez beaucoup joué à la radio à une époque.
Joué
hein.
À l'époque, oui.
Il y avait une carte de musicien à la radio. Comment on devenait soliste officiel de la radio?
C'était sympa. Il fallait jouer 12 œuvres. Il fallait faire 4 concertos et 4 sonates. Voilà. Et vous arriviez et on choisissait au hasard. Bon. Alors il fallait bien jouer.
Et alors à partir de là, on allait jouer dans beaucoup d'émissions.
On était de temps en temps invité pour une émission. Il n'y avait pas tellement, faut pas exagérer. J'en ai frappé aux portes. Allez, moi je peux plus faire ça maintenant.
Alors on vous retrouve avec Henriette Puy-Roger,
oui,
grande pianiste.
Grande pianiste, effectivement.
Dans ce presto de Georges Enesco.
Thank you.
Georges Enesco, le Cantabile et Presto pour flûte et piano. Là, c'était le Presto joué à France Culture il y a déjà bien
beaucoup
longtemps par Henriette Puy-Groger. Et vous-même, donc, Gabriel Fumé, qui êtes venu aujourd'hui pour évoquer cette famille étonnante qu'est la vôtre, Dinam Victor Fumé. On n'a pas précisé votre grand-père, ce qui s'appelait Victor. Et Dinam, c'était à cause du dynamisme de sa musique.
Bien sûr, et de lui-même.
Votre père, Raphaël Fumé, donc, qu'on a entendu, ce Jean-Sébastien Bach des déguisé en Charlie Chaplin, et vous-même, donc le flûtiste, un des grands flûtistes français de votre génération, qui avait quand même un peu souffert vous, de ce handicap, au fond, vous le dites, d'avoir un père qui était d'une certaine façon résigné, presque un peu complaisant dans son échec, c'était pas très encourageant quand on était un jeune homme.
C'était pas encourageant du tout. Ouais.
Mais néanmoins, avec une grande fidélité, vous avez essayé de le faire connaître jusqu'à sa mort.
C'est pas de la fidélité, c'était une évidence, parce que moi, c'était une évidence. Et d'ailleurs, quand je réécoute ses œuvres, je suis toujours fasciné. Là, j'avais pas entendu le trio de flûtes que j'ai réécouté
tout à l'heure. Oui.
Avec trois flûtes, ce qu'il arrive à faire, c'est formidable. C'est immense, c'est grand.
Alors, outre votre propre carrière, vous avez donc beaucoup essayé de faire jouer leurs œuvres. Et puis, vous avez fini, et je le recommande beaucoup aux lecteurs, par écrire un livre où vous racontez donc l'histoire de cette famille, la musique du silence ou la dynastie des fumées. Un livre en forme d'entretien.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est paru aux éditions De La Tour.
De La Tour, oui. Qui a édité d'ailleurs les œuvres de piano de mon grand-père et de mon père aussi.
Aujourd'hui, si vous vous fixiez un but musical prioritaire...
C'est tout continuer.
Oui, mais il y a une œuvre qui vous paraît particulièrement importante.
Il y a des œuvres d'orchestre à monter de mon grand-père. Il y a des belles choses. Il y a le quatuor qui est magnifique, le quatuor à cordes de mon père qui est magnifique, mais... C'est difficile, évidemment, de ne pas faire jouer. Il faut vous donner un gros chèque pour ça.
Vous êtes parfois un petit peu découragé par la difficulté de cette
œuvre. J'ai pas le choix. Si je suis découragé, je ne ferai plus rien. C'est un métier très, très difficile. On ne peut être qu'opportuniste, on ne fait rien. Alors, si vous n'êtes pas dans le vent de l'opportunisme, vous avez très peu de chance. C'est comme ça.
Bon, en tout cas, vous avez, outre ce livre que je recommande, fait réaliser récemment ce disque aux éditions Polymnie des œuvres pour piano joué par Inesei Ramic.
Oui.
Et on va peut-être se quitter avec alors une improvisation de votre père.
Oui, alors dans ce disque, il y a 5 improvisations que j'ai retrouvées, mais qui c'est très ancien. J'ai trouvé une vieille cassette, inaudible quasiment, et je l'ai donnée au professeur d'harmonie du conservatoire qui s'appelle Thibaut Perrine.
Oui.
Et il a donné à un de ses meilleurs élèves qui s'appelle Thibaut Lepris, qui a réécrit ça d'une façon formidable.
C'est une transcription d'un enregistrement d'improvisation.
C'est pas une transcription. Il a simplement
dicté, enfin presque
réalisé.
Réalisation.
C'est effrayant. Je me demande comment il peut faire ça. C'est intéressant. Il est d'ailleurs très gentil.
Oui, très brillant. Oui.
Mais il est très. J'avais proposé un prix. Je dis ça parce que c'est extraordinaire. J'avais donné un certain prix qui était bien, qui était normal. Elle me dit mais c'est beaucoup trop.
C'est beau, vous voyez.
Alors, pour voir le talent qu'il a, c'est extraordinaire. Alors voilà. Et là, il est en train de faire une version.
Thibaut Lepris.
Thibaut Lepris. Et il est en train de faire une version pour deux pianos du Sabarusik que vous avez entendu. Qui va être joué d'ailleurs par Yenisei Ramic et son frère Nikita Ramic. Voilà.
Et un mot encore pour les jeunes musiciens, ou pas jeunes d'ailleurs, qui veulent trouver la musique.
La musique, c'est dans les éditions de La Tour. Ils ont qu'à taper sur Internet, éditions de La Tour, c'est très facile.
Et les partitions sont disponibles.
Ils les auront, bien sûr. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça, cher Gabriel Fumé.
Merci de m'avoir invité, surtout. Merci aussi.
Et on continuera, nous, d'écouter la musique des fumées.
Alors, on écoute ça, l'improvisation, oui.
La cinquième improvisation de Raphaël Fumé par Inesei Ramic dans son disque qui vient donc de paraître aux éditions Polymny. Et puis je vous recommande également le livre La musique du silence ou La dynastie des fumées de mon invité Gabriel Fumé qui est paru aux éditions de la Tour où figurent également les partitions de ses grands compositeurs.
J'étais près d'un vieux monsieur au concert l'amoureux. On venait d'y jouer du Lully, du Mozart, du Puccini. Ce brave homme à mes côtés ne cessait de chanter. Me citait en connaisseur le nom des compositeurs. Ça c'est du Wagner, ça du Verdi. Je lui dis, chacun dans la vie a sa technique. Vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Je sais distinguer de façon très nette une contrebasse d'une clarinette, un trombone, d'un saxo, d'un piano. Je ne confonds pas Werther et le roi Dagobert, le boléro de Ravel avec Cadet, Roussel. C'est comme ça dont tout j'ai le sens pratique. Vous en faites pas, je connais la musique. Je distingue aussi même les yeux clos, un mélomane d'un vieux ballot. Tout au-dessus de chez moi, au sixième sous les toits, vivait un couple d'amoureux, ils étaient branques tous les deux. On le disait très jaloux, hier j'entends des coups. Devant ma fenêtre, je vois passer une chaise, un saladier. J'appelle le concierge, pourquoi s'écrit ? Il me dit, chacun dans la vie a sa technique. Vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Chaque fois que la jalousie l'aveugle, faut qu'il fasse du swing avec ses meubles, plein de piano et leur poste de radio. Ça continue de descendre, voilà leur salamande. Mais jamais ils ne jetteront 50 kilos de charbon. Fort heureusement, j'ai le sens pratique. Moi aussi, je connais la musique. J'ai ma fille aînée qui va se marier. Ils me fournissent tout son mobilier. En amour, parce que je la connais, la musique. Allez, la gamme chromatique des grands serments. L'amour majeur, l'amour mineur, les trémolos, les pauses et les soupirs, les marches triomphales et les valses hésitations. Va-t'en, reviens, pars sans te retourner, mais retourne-toi avant de partir, nom d'un chien. Et les grandes envolées musicales, je t'apporte mon cœur, mais prête-moi 50 balles. Et les mauvaises harmonies qui finissent par des fausses notes, avec des coups de pied dans la culotte, ça c'est du hot. Alors voyez que je m'explique et que moi aussi je la connais la musique, hein. Connaissez-vous le grand Titain du faubourg Saint-Martin? C'est un type qui sait nager, qui n'est jamais submergé. Il vous vend des haricots à 50 francs le kilo, du savon à 12 francs le pain qui ne mousse que le lendemain. Mais c'est du marché noir qu'on lui dit, il sourit. Chacun dans la vie a sa technique, vous en faites pas, je connais la musique. La clé de sol, la clé de fa, la clé de do. Voulez-vous une très jolie volaille, aussi solide que de la pierre de taille? 300 balles, c'est pas mal, c'est pas trop. C'est un poulet de 5 ans qui est mort rhumatisant. J'ai aussi un lapin, c'est le chat de la mer, Taupin. Que voulez-vous, j'ai le sens pratique. Avant tout, je connais la musique. Je suis prêt si vous êtes acheteurs à vous vendre ma femme et ma sœur.
Et oui, en voilà un qui connaît la musique, le grand Georgius en 1941 avec l'orchestre de Pierre Chagnon. En début d'émission, j'ai annoncé aux Parisiens les représentations du Mikado à l'Auditorium Saint-Germain. Je voudrais aussi dire aux Marseillais qui ont la chance d'habiter près du théâtre de l'Odéon que les mêmes 1er et 2 avril, ils pourront aller applaudir La Veuve Joyeuse. Ce sera sous la direction de Bruno Mambray.
La caresse, la promesse. reposer long des tendres violons. Mon cœur chante avec vous, à que ce que, à que ce que.
Rudy, prends bien garde au loup.
Valin et André Bauger qui ne seront pas à l'affiche du Théâtre Odéon de Marseille, mais vous pourrez bien entendre La Veuve Joyeuse, ce sera les 1er et 2 avril à 14h30.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et je vous rappelle que cette émission, comme tous les numéros d'Étonnez-moi Benoît, vous pouvez la retrouver sur le podcast du site donc, de France Musique, sur la page de l'émission. Mais il est temps maintenant de retrouver Serge Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Heureux de vous retrouver pour évoquer aussi un musicien dont j'adore tout ce que je connais, mais je ne connais pas grand-chose. Alors avec vous, je vais tout savoir. Henri Mancini.
Voilà, alors donc effectivement, plein feu aujourd'hui sur Henri Mancini. C'est vraiment ce fut un des véritables maîtres d'Hollywood, auteur de musique de films dans tous les styles, entre autres de ce thème connu de tous.
Besoin de dire le titre, on se rappelle tous, notamment Peter Sellers. Là, c'est la musique donc de 1963 pour La Panthère Rose.
Absolument. Et donc, Henri Mancini fut associé durant toute sa carrière à Black Edwards, le réalisateur de ce film La Panthère Rose. Black Edwards, par ailleurs, mari de Julie Andrews, eh bien, Black Edwards a bâti avec l'apport musical d'Henri Mancini une œuvre qui va donc de La Panthère Rose à Victor Victoria, en passant par Charade, sans oublier Diamant sur canapé et son fameux thème Moon River, joué superbement par le clarinettiste britannique Acker Bilk. Thank you.
Moon River, je suis en compagnie de Serge Laïc. Nous parlons d'Henri Mancini, le compositeur de ce célèbre thème Breakfast at Tiffany's. Ça, c'est le titre anglais. C'était donc en l'année
1962. Et d'ailleurs, Mancini décroche l'Oscar de la meilleure partition pour le cinéma avec la partition donc de Breakfast at Tiffany's.
Et moi, j'ai les pochettes de disques originales, toujours grâce à Serge Laïc, voilà. Sous les yeux des petites merveilles
d'ailleurs,
du vinyle.
En consultant cette pochette, je vous ai dit une petite erreur. L'Oscar est effectivement en 62 pour Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé, mais le film date de 1961, grâce à la pochette, nous le savons. Alors, petit retour en arrière, Henri Mancini était né en 1924 aux États-Unis, deux parents d'origine italienne. C'était un excellent pianiste, le jazz, les grands orchestres des années 30-40 ont toujours été pour lui une source d'inspiration, entre autres quand il va composer un peu plus tard la musique du feuilleton télévisé Peter Gunn. Alors, après-guerre, pianiste il l'est aussi, avec l'orchestre fondé par Glenn Miller, mais dirigé par un certain Tex Beneke, puisque Glenn Miller avait disparu accidentellement à la fin de la guerre. Et avec Tex Beneke, eh bien Henri Mancini apprend l'art de l'orchestration. Henri Mancini fut l'un des mélodistes les plus inspirés, on l'a déjà compris, pour le cinéma. Il savait s'adapter à toutes les musiques de films, comme il l'avait expliqué dans une interview en 1969. J'essaie d'aborder chaque film à illustrer avec l'idée de lui trouver un cachet personnel. Chaque film a une personnalité, comme par exemple Atari ou comme La Panthère Rose, évidemment. L'idée essentielle est que chaque film a besoin d'un style propre. Un style d'image, un style dans les couleurs ou dans l'aspect vestimentaire des acteurs ou encore dans leur façon de jouer. Ça doit être aussi le cas pour la musique. Par ailleurs, j'ai une grande affinité pour les films où les animaux interviennent. Dans Atari, j'ai écrit des musiques pour les rhinocéros. Mais j'ai écrit aussi des musiques dans ce film Atari pour les autruches et pour les éléphants. Il y a eu bien sûr La Panthère Rose. Et dans le film Diamant sur canapé, j'ai composé pour les chats. C'est un véritable zoo qui était autour de moi.
Thank you.
Baby Elephant Walk, petite merveille d'Henri Mancini, qui est d'ailleurs la première plage de votre disque, les plus belles musiques de films, c'est ça?
Absolument.
Chez Marianne Melody.
Absolument. Vous avez une mémoire d'éléphant. Alors, à côté de ces innombrables compositions pour le cinéma et pour la télévision, eh bien, Henri Mancini s'est aussi attaché à signer des thèmes colorés, entraînants, comme Timpaniola, qui est tout simplement l'appellation d'un piano brésilien.
Et c'est donc Henri Mancini toujours, mais là, hors de la musique de film, Timpaniola, d'inspiration brésilienne, un morceau de 1961 qu'on peut rattacher vraiment à ce qu'on appelle la musique légère, n'est-ce pas ?
Absolument, absolument. Alors, Henri Mancini a été chanté, joué par des centaines d'artistes sur une bonne partie de la planète. Des centaines de disques comportent des morceaux d'Henri Mancini. Alors, un exemple particulier, Quincy Jones, le grand Quincy Jones, a consacré tout un album à des mélodies de Mancini, comme l'a fait aussi la divine Sarah Vaughan, avec notamment sa superbe version de Mr. Lucky.
They call us lucky, you and I, lucky girl, lucky guy, when you take my hand or touch my cheek, I know I'm on a lifetime lucky streak. A lucky rainbow lights the sky when we kiss or when we sigh. They say you're lucky, Mr. Lucky Guy. But darling, darling, so am I.
Thank you. say you're lucky, Mr. Lucky Guy. But darling, so am I. So am I. So
Sarah Vaughan en 1964 avec l'orchestre de Frank Foster, un musicien de Count Basie, je crois.
Absolument, hein, Serge, absolument.
Et toujours donc une composition d'Henri Mancini dont vous nous parlez ce matin.
Voilà, alors Henri Mancini n'a que 70 ans quand il s'éteint d'un cancer en juin 1994. Il était marié à Ginny O'Connor qui avait été chanteuse dans le groupe vocal du crooner connu Mel Tormé et c'était dans les années 40. Voilà Benoît, merci. Et à bientôt.
Merci Serge Laïc, c'est toujours une joie avec vous de découvrir ces grands maîtres de la musique légère. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Julien Calva, entouré de Thibaut Nassimbem et Paul Simonacci. Réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Jean Guidoni. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end à tous sur France Musique, bien entendu.